Et c'est donc avec vous, Josiane, qu'on commence cette émission ce soir. Bonsoir, Josiane.
Bonjour, j'étais saisie. Excusez-moi.
Je vous ai fait
peur. La formation. Oui, bonjour, Sabine Troyes.
Sabine,
excusez-moi.
Bonsoir, oui, Josiane. Bon, tout va bien. Respirez.
Oui, ça va aller. Je vais essayer de mettre les choses. Quand j'ai parlé avec votre collègue. Mm-hmm. Parce que là, j'ai perdu ma sœur, mes deux sœurs et mon frère. J'ai une sœur qui était proche d'elle, quand même. Je ne sais pas faire le deuil. Comment ça se fait, ça?
Sur combien de temps il y a eu tous ces deuils?
Ma sœur, ça fait 1 an, mon frère 2 ans et 3 ans. J'ai perdu deux sœurs et un frère.
Je peux vous demander quel âge vous avez, Josiane?
64 ans.
Et quel âge ils avaient, eux?
Ma sœur, elle avait 53, mon autre sœur, elle avait 54, mon frère 63.
Et qu'est-ce qui leur est arrivé à chacun?
Surtout le cœur, le cancer. Le cœur et puis le cancer.
Le cœur pour votre frère et le cancer pour vos sœurs?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et est-ce qu'à chaque fois, ça a été quelque chose de rapide? Ou est-ce qu'il y a
eu... Ah oui. Bah oui, j'ai encore téléphoné la veille. La veille, j'ai téléphoné. Et après, hop, elle est partie. C'est mon frère qui m'a téléphoné pour dire qu'elle était partie.
Et les fois d'avant? Ça a été rapide
aussi?
Et après,
j'ai connu un frère aussi, puis une sœur. C'était vite. Hein. Ouais, puis elle avait soigné maman. Puis après, elle s'est retrouvée tout seule. Hein. Et tous les jours, elle me téléphonait. J'étais proche d'elle. Hein. J'ai une sœur qui est décédée, mais j'étais proche de ma sœur la plus jeune. Elle me faisait de la tarte.
Dans cette fratrie, vous êtes l'aînée?
Non. J'ai encore une sœur qui est plus vieille que moi. Et moi, je ne parle pas de cette sœur-là.
Ah.
J'étais proche de la sœur de 53 ans.
J'allais vous demander
elle
si elle
était bien gentille avec moi. Oui, être gentille. Parce que moi, j'ai perdu mon mari le 8 janvier 2003. Donc je me suis remis avec quelqu'un. Là. Il est gentil. Et il a connu ma sœur, sa belle-sœur. Mmh. Elle était très très gentille. Ah oui, ça m'a fait un choc quand elle est partie. Mes autres, ça m'a fait un choc aussi, mais elle, encore pire. Elle a été incinérée au-dessus de maman.
Et là, elle...
j'y pense, à chaque fois j'y pense, beaucoup. Hein.
Ça fait 1 an maintenant, c'est ça?
Oui. Même, elle me téléphone souvent, ça fait drôle. Hein. J'ai plus que les photos, c'est tout.
Est-ce que vous avez réussi, par exemple, à enlever son numéro de téléphone de votre portable?
Oui. Moi, c'est pas portable, c'est un téléphone fixe, j'en ai pas de portable. Oui, j'ai enlevé.
Ça, c'est souvent difficile aussi, cette étape-là.
Oui. C'est mon frère qui l'a découvert. Alors, c'était dur pour lui aussi. Hein. C'est mon frère qui l'a découvert parce qu'elle est tombée par terre. Parce qu'elle était toute seule. Hein. Elle était malade. Hein.
Mais elle savait qu'elle était malade et vous aussi, vous le saviez. Donc, est-ce que vous saviez que
c'était... Oui, mais moi, je savais pas qu'elle allait partir comme ça. Hein.
Ah.
C'est mon frère qui m'a annoncé ça au téléphone, ça m'a fait un choc quand même.
Les médecins, vous n'avez pas dit qu'elle était en phase terminale ou que c'est ça allait se
terminer? Non. Si elle était malade, mais je ne pensais pas qu'elle allait partir comme ça. Elle est partie brutalement.
Vous aviez espoir qu'elle arrive à s'en sortir?
Ah oui. Ouais, elle venait me voir, je disais viens me voir, tu es gentille. Elle m'a emmené faire des courses, moi j'ai pas de voiture, elle a une voiture, elle m'a emmené faire des courses et tout ça.
Est-ce qu'elle avait des enfants, votre sœur?
Non. Elle avait rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas été. Elle aurait voulu avoir une petite famille. Mais malheureusement, ça n'a pas été.
Et vous avez des enfants?
Oui, j'en ai un.
Est-ce que vous avez un garçon?
Non, mais il ne me parle pas. Bon, c'est rien, je peux le dire à l'antenne, ça ne fait rien. Il ne me parle pas. Non, j'en ai un. Puis j'ai deux petits enfants que je ne connais pas.
Ah oui, donc c'est pas gay non plus à la maison?
Non. Là, ça va être les fêtes de Noël, c'est pas gay. C'est vrai. J'ai appelé, mais c'est pas la même personne. Hein. Je ne sais plus laquelle que c'était. Votre collègue.
Sophie.
Je ne sais plus qui c'est vous, je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus.
C'est Sophie.
J'ai déjà appelé, oui. Mm-hmm. Longtemps, hein, il y a déjà un petit moment. Mm-hmm. Et j'écoute tous les jours. Hein. Tous les jours, je vous écoute. Bon, il y a longtemps que je vous écoute. Hein.
Alors, dites-moi, Josiane, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à accepter depuis ce deuil? Est-ce que vous avez été accompagnée déjà? Est-ce que vous avez vu un thérapeute ou quelqu'un quand elle est partie?
Non. J'en ai parlé au docteur.
Et votre généraliste, c'est ça?
Oui, c'est le docteur généraliste.
Et le problème,
elle me dit c'est la vie, mais non, je dis c'est pas la vie, parce que c'est une drôle de vie que je fais. Elle dit, t'as des enfants, tu les vois, tout. Parce qu'elle me posait, c'est une médecin que je connais très bien, me posait beaucoup de questions. Alors je fais non, j'ai deux petits-enfants que je vois pas. J'en ai un de, bon, il avait un temps, quelquefois il vient, quelquefois il vient pas. Parce que moi, je l'ai vu à l'âge de 8 mois. Après, je l'ai vu à l'âge de 2 ans, quand mon mari était cordois. Et après, il est venu à l'âge de 18 ans. J'en ai un que je connais. Mais les deux autres, je le connais pas. Son frère et sa sœur, je le connais pas.
Racontez-moi, Josiane, un peu l'histoire de votre vie. Vous avez eu des parents qui étaient comment?
Mon père, pas tellement bien. Bon, je peux le dire à l'antenne, je m'en fous. Mais j'avais un père qui buvait beaucoup.
Il buvait?
Oui, j'ai une droite d'enfance.
Il était violent?
Ma maman, non. Hein. Maman, elle était très, très gentille. Puis j'avais une grand-mère aussi, heureusement que j'avais ma grand-mère. Ma grand-mère, elle me soutenait beaucoup. Ouais. Ma grand-mère n'était pas loin de chez mes parents, c'est vrai.
Et vous étiez combien? Vous étiez 5 enfants, c'est ça?
7.
7 enfants. Ah, 7 enfants?
7, oui. 7 enfants, oui.
Oui. Mais vous gardez
quand même. Là, ça va être Noël, alors c'est dur. Excusez-moi de l'interrompre.
Non, j'essaie de comprendre votre histoire de vie, Josiane, savoir comment les choses ont évolué pour qu'il y ait tellement de fâcheries là aujourd'hui autour de vous.
Ah ouais, c'est pour ça que je vous ai appelé. Hein. J'ai dit à votre collègue, j'ai dit je vais parler comme ça, elle va peut-être me dire des choses. Parce que vous parlez bien. Hein.
C'est gentil.
C'est vrai, vous êtes bien gentil parce que maintenant, tous les soirs, je ne manque pas l'émission. Hein. Je vous écoute tous les soirs.
C'est gentil, Josiane.
C'est une femme très gentille. Hein. Vous en mettez bien les choses. Une fois, je voulais vous appeler, mais je n'ai pas su. Hein. Que c'était une dame qui était, un monsieur qui était non-voyant, parce que moi, ma maman était comme ça aussi. Hein. Mm-hmm. Et j'allais vous appeler, mais je n'ai pas su vous avoir.
Vous voulez nous appeler pour dire quoi ce soir-là?
Bah, avec ma soeur, ma maman, que je fais un bon courage, parce que ma maman était comme ça. Ah. Et
pour apporter un mot de soutien, un mot gentil.
Oui, un soutien avec la dame. C'était une dame, je crois, qui était non-voyante, ou un monsieur, je ne sais plus.
Ça me touche beaucoup, oui, Josiane, ça me touche beaucoup dans cette émission que des gens comme vous qui ne vont pas très bien, cette intention
oui,
de
moi,
d'aider,
les choses,
d'aider
j'en mets les choses,
autres.
Moi.
Quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ça très généreux.
Oui, oui, parce que moi, j'aime bien, c'est les enfants aussi. Hein. Oh, mon Dieu. J'aime bien les enfants. Je ne sais pas que personne frappe les enfants. Hein. Oh, j'adore les enfants, moi.
Vous avez travaillé, j'imagine, Josiane.
Oui.
Et qu'est-ce que vous faisiez comme métier?
Je faisais les ménages.
D'accord.
J'aurais bien voulu m'occuper des enfants, mais malheureusement, j'avais des problèmes, hein, j'ai pas su. Avec mon petit-fils. Oui. Mon petit-fils a parlé. Parce que moi, j'ai une belle-fille, elle est drôle, là. Elle est bizarre.
Alors attendez, avant d'en arriver là, pour que je comprenne bien votre histoire, vous avez quitté vos parents, vous êtes mariée?
Oui. J'ai perdu mon mari.
Mais vous avez été heureuse avec lui? C'était quelqu'un de bien?
Oui, le premier, oui, c'est bien. Après, je suis remis avec la deuxième, et bien aussi. Il ne boit pas, il ne fume pas, et bien. Puis il est courageux aussi. Hein.
Donc
là,
vous
êtes... il est veuf aussi, hein, mais il en boit.
Donc
c'est ce que j'ai appelé. Hein.
Vous n'êtes pas seule, là, vous avez quelqu'un dans votre vie.
Ah oui, j'ai quelqu'un avec
donc
moi.
Donc ça, c'est important. Oui, ensuite, oui. Vous avez votre fils à quel âge?
Mon fils, à 18 ans.
Donc vous l'avez eu jeune?
Et oui.
Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver
marié, hein.
Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à être fâchée comme ça avec lui?
Bah, je ne sais pas. C'est la belle-fille, hein, qui fait ça, la belle-fille. Oui.
Pourquoi? Qu'est-ce
c'est la belle-fille. Moi, je me suis mis avec quelqu'un, mais longtemps après, c'est pas ce qu'il fait. Hein. Non, parce que moi, j'étais une bonne maman. Et puis, j'étais une bonne maman et tout. Hein. Mais déjà, avant, son père est décédé. On avait pris un avocat pour essayer d'avoir le premier, parce qu'il voulait pas me montrer. Alors, l'avocat a dit, on n'a pas le droit d'empêcher de voir des petits-enfants. Moi, je l'ai eu à l'âge de 8 mois. Je l'ai eu à l'âge de 8 mois, mais après, je l'ai eu à l'âge de 2 ans.
Mais alors, si je comprends bien,
Josiane,
si je comprends bien, jusqu'à ce qu'il rencontre cette femme, ça allait bien avec votre fils?
Ah oui.
Et puis alors un jour il vous la
présente. Ah oui, ça allait bien. Mon Dieu, maman par-ci, maman par-là, oui, ça allait bien.
Donc un jour il vous la présente
bien. C'est quand il a connu ma belle-fille, ça s'est pété.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et vous?
Je ne sais pas. Pourtant, j'ai rien fait, au contraire. J'ai donné beaucoup de choses, tout ça. Hein. J'ai expliqué le manger, tout ça, était méchante avec moi. Moi, je disais rien. Et après, voilà, fille baptême, et après, j'ai plus le petit. Puis mon ex maintenant, qui est décédé, il m'a dit, ben non. Et mon mari, mon ex, il pleurait. Il me dit, non, on va aller voir un avocat. Parce que ça ne peut pas durer comme ça. Parce que lui, il voulait voir son petit-fils avant de partir. Il me dit toujours ça. Hein.
Mais avant...
Il va adorer. Maintenant, il a 21 ans maintenant. 21 ans, kilo.
Avant d'en arriver à un avocat, vous avez essayé de parler avec votre fils?
Oui, bon, on ne savait pas y parler. Il criait fort. Hein.
Non, mais vous?
Oui, j'ai parlé, oui.
Qu'est-ce que
là,
vous...
je peux me parler, hein.
Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre fils?
Bah, j'ai dit, faut montrer mon petit-fils, pour pas faire ça. Il a dit non, tu le verras jamais.
Mais pourquoi?
Moi, je l'ai dit, mon mari a dit, c'est dur. Hein.
Mais pourquoi?
Je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup, hein, de cas comme moi. Parce que, une fois, j'ai entendu à votre émission là, qu'il y a des gens qui ne voyaient pas ses petits-enfants.
Oh, je sais bien qu'il y en a beaucoup, mais ce que j'ai du mal à comprendre dans ces histoires-là, c'est que c'est le manque de dialogue. Pourquoi on n'arrive pas à se parler dans ces familles-là?
Je ne sais pas.
Ça fait combien de temps que vous n'avez plus parlé à votre fils?
Ah, mon Dieu, ben longtemps. Ça fait, attendez, mon mari, mon ex, excusez-moi, mon premier, ça fait le 8 janvier 2003 qui est parti. J'étais chez lui, bon, 3 jours, j'étais couché là-bas. Et après, il disait, bon, ça, ma belle-fille, ça n'épuisait pas. Et pour ça, je ne disais rien. Au contraire, je donnais un coup de barre. Ah, oui. Je faisais la vaisselle, tout. Hein. Mais c'était dur pour moi. Mon petit-fils, il avait 4 ans quand son papy est parti. Hein. Et mon petit-fils, il comprend maintenant. Hein. Il dit, oui, mamie, tu m'as jamais fait de mal. Je dis, bah non. Hein. Mon petit-fils, il me pose des questions. Alors, je dis, bah non, tu venais chez mamie. Il dit, oh, mais je sais bien, mamie. Tu étais gentille. Hein. Même papy, puis toi. Hein.
Donc ça, c'est... il a 21 ans maintenant, c'est ça?
21 ans. Et les deux autres, il y en a un de, 10... de 14 ans et 12 ans, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu.
Et comment est-ce que vous avez renoué le contact avec le plus grand, alors?
Bah, le petit-fils, c'est lui qui est venu tout seul. C'est
ah, bah, vous voyez quelquefois dans la vie.
Hein. Mais, je t'ai saisi, je ne l'avais pas connu. Là.
Ça a dû... Oui, j'imagine le choc, ça a dû vous faire un
drôle d'effet. Ah bah, oui, ça m'a fait drôle. Il est rentré à la porte. Oh, j'ai dit, c'est qui? T'es qui, toi? Alors, excusez-moi l'expression. J'ai dit, bah, t'es mon... bah, tu ne me reconnais pas? Je dis, non. Hein. Puis après, bah...
Ça a dû être émouvant pour vous.
Hein. Oui, oui. Ben là, il vit pas chez ses parents maintenant. Hein. Il vit chez sa mamie.
Et il vous a dit pourquoi, mamie, il, a eu, mamie, hein. pourquoi oui. il a eu envie de venir vous voir?
Me parler. Ben ouais, il m'a parlé beaucoup. Hein. Il pose beaucoup de questions. Hein.
Ben, j'imagine.
Moi, j'ai dit, je t'ai jamais fait de mal. Hein.
Ouais. Est-ce que ses parents savent qu'il vient vous voir?
Ben, il n'est plus ses parents.
Oui, mais il est en contact avec eux, j'imagine.
Ah, non, avec son papa, mais parce que ce n'est pas sa maman, c'est sa belle-mère.
Mais est-ce que son père, est-ce que votre fils sait, est-ce que votre fils sait qui vient?
Oui, oui, non, il a dit, mon petit-fils, il a dit, je fais ce que je veux. Je vais avoir mamie, j'ai 21 ans, je peux venir voir mamie. 18 ans qu'il avait quand même. Il a dit à ce papa, je peux venir voir mamie. Lui, il ne répond pas. Il a dit, tu fais ce que tu veux. Il a dit, bah, mamie, elle est gentille. Moi, c'est ma mamie.
C'est plutôt chouette, ça, c'est plutôt sympa qu'il y ait ce contact qui se sent.
Ah, bah là, il fréquente, hein. Il va avoir un bébé, là, au mois de mars.
Ah, bah
il va être derrière grand-mère.
Du coup, oui. Vous allez profiter d'un petit bébé?
Oui, oui, bah, j'espère que j'ai même bien mon petit-fils.
Attendez, Josiane, vous venez de me dire quoi? Vous allez être arrière-grand-mère?
Oui, oui,
à
arrière-grand-mère.
Oui, vous
mon petit-fils de 21 ans.
À 64 ans, vous êtes arrière-grand-mère?
Oui, bah, moi, j'étais. Oui, oui, oui.
Bah,
là, j'étais mamie à 45 ans.
Ah, oui, c'est ça.
De mon premier. Parce que les deux, oui, c'est ça.
Ils sont tous arrivés jeunes, alors, les enfants?
Ah oui. Mon petit-fils, le premier, il en a vu. Hein, parce que c'est pas sa maman, hein, c'est sa belle-mère. Parce que lui, ça, il a quitté ma première belle-fille. Après, ça en a avec sa cousine, vous comprenez? Et tous les deux, c'était méchante. Et la première, la maman Corentin, bon, j'ai dit non, ça fait rien. J'ai dit non, mon petit-fils, c'est pas grave. Et là, je suis en contact avec elle, vous voyez?
Oui.
Elle comprend qu'est-ce qu'elle m'a fait du mal, la première. Elle comprend tout le mal qu'elle m'a fait.
Elle commence
Allô?
À... Oui, je vous écoute.
Ah, vous êtes encore là, d'accord.
Oui, bien. Non, je suis pas partie faire des courses, je vous écoute.
Ah, non, Josiane... surtout des courses avec le truquillot, là.
Je vais vous demander de patienter un tout petit peu, on fait une courte pause et je vous récupère juste après, si
d'accord,
vous voulez bien.
Merci, j'attends.
Merci à vous,
beaucoup.
À tout de suite.
Europe.
Merci beaucoup.
Oui, Josiane, vous êtes toujours là?
Oui, je suis encore là.
Vous me disiez que c'est votre belle-fille qui commence à comprendre un petit peu les choses, là?
Oui, parce que là, ma belle-fille, la première, là, de mon premier petit-fils, elle a 43 ans, elle habite maintenant, elle habite pas par ici. Bah, maintenant, je suis en contact avec elle. Elle a compris. Bon, malheureusement, il est parti, hein, mon ex. Ah, parce qu'elle aimait bien le beau-père, ça, c'est sûr. Mais après, il y a eu un problème. Hein. Puis après, bon, elle s'occupe plus d'avocat. Elle venait me le montrer. Mais c'est mon fils qui est méchant. Je le voyais. Quelquefois, elle venait me voir avec mon petit. Et mon fils, il ne voulait pas. Alors, elle a dit, bah, j'ai le droit d'aller le voir, d'aller le montrer à ta maman. Alors, mon fils, il était méchant aussi. Quelquefois, elle me téléphone presque tous les jours, elle m'appelle.
Pourquoi il est comme ça, votre fils?
Je ne sais pas. Parce que lui, il s'en remet à quelqu'un d'autre. Hein. Il s'en remet avec une deuxième. Hein. Mais la deuxième, c'est encore pire. Hein. Parce que la première, c'est toujours ma belle-fille, parce que c'est le moment de mon premier. Oui. Et avec la deuxième, elle a eu deux enfants. Et ma deuxième, elle a dit, tu verras, j'étais une fois en course, je ne sais pas où. Hein. Et je l'ai vue, je voulais embrasser ma petite-fille, elle m'empêchait. Mais là, ça fait mal. Hein. J'ai sorti du magasin, ça m'a fait tout drôle.
Oui.
Je vais prendre un avocat, puis je dis, non, je ne prends pas. Parce que je sais bien, bon, ici, j'ai une petite chambre, j'ai des affaires, tout ça. Hein. Ouais. Parce que la première, j'ai eu une l'assurance sociale, et puis l'assurance sociale a dit, bah, vous l'aurez, c'est tout, j'ai gagné. je l'ai eu une fois par mois. Après, j'avais une semaine pendant les vacances. Et mon mari, alors, mon premier, qui est décédé, était content.
Que je comprenne bien, Josiane, c'est l'assistante sociale qui a négocié ça pour vous, finalement?
Ah oui, oui, oui. Oui.
D'accord.
Oui, ah, oui. Ah oui, je vais voir un avocat, puis après, un avocat, une assistante sociale qui est venue voir comment que la charpe était propre. Moi, je me suis impeccable.
Alors, ouais, c'est quand même l'avocat, hein. C'est quand même l'avocat qui a fait les démarches.
Ah oui, oui, c'est l'avocat avec mon mari, hein. Mon premier mari qui est décédé.
D'accord.
Son mari a dit non, non, moi, je veux le voir, je veux le voir. Parce que lui, il aimait bien son petit-fils. Oh là là, mon Dieu. Il en a fait aussi. Hein. Il en a acheté des trucs. Oh, mon Dieu.
Donc vous avez demandé à l'avocat d'intervenir dans le cadre de loi qui autorise les grands-parents à avoir leurs petits-enfants.
En fait. Après, il faut aller voir chez les voisins pour faire des papiers, comme quoi je sais bien.
Il y a une enquête sociale qui se fait, alors, c'est ça?
Oui, oui. Enfin, une cessation. Alors, tous les gens m'ont défendu ici. Il y a beaucoup de voisins qui m'ont défendu.
Mais moi, j'entends beaucoup de choses quand même positives dans votre histoire, Josiane. Vous avez un compagnon qui est là, qui vous aime. Vous avez un petit-fils qui a dit grosso modo, je vais rester poli, mais allez vous faire voir tous. Moi, j'ai envie de la voir et lui parler, donc il vient vous voir.
Vous avez
des gens qui vous soutiennent autour de vous, donc tout ça, c'est quand même plutôt positif.
Ah ouais, ouais.
Et je suis persuadée que vos autres petits-enfants, ils viendront quand ils seront majeurs aussi.
Moi, j'espère.
Ils vont revenir,
bien sûr. Leur maman est méchante. Hein. Oh là 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 là. Elle est méchante, la deuxième. Hein. Encore pire que la première. Hein. Parce que mon petit-fils, il me l'a montré en photo, sa petite sœur. Hein. Parce que lui, il est parti de là. Il dit non, moi, mamie, je ne reste plus là. Mais il va voir son père quand même. Oh, je dis, c'est de papa, hein. Il dit, moi, je t'empêche pas d'aller voir son papa quand même. Hein. C'est de papa, hein. C'est vrai.
Il y a ce lien-là, et puis il y a ce petit bébé qui va arriver derrière aussi, qui va être bien pour vous.
Oui, c'est une petite fille, hein, tu vas voir.
Ah, vous le savez déjà?
Oui. Ah oui, il me l'a dit, hein, au mois de mars. Oui.
Ça, c'est du bonheur.
Je ne la connais pas, la fille, hein. Mais il va venir avec. Hein. Il va venir me le montrer. Hein. Il va nous montrer la fille.
Quand vous dites la fille, c'est sa fille ou sa copine?
Sa copine.
D'accord.
Excusez-moi de me tromper.
Et vous allez l'accueillir? Vous allez l'accueillir gentiment, sa copine, j'imagine?
Je ne l'ai pas encore vue. Hein. Et je voudrais bien le connaître parce que lui, il habite chez sa mamie maintenant. Il n'habite plus chez ses parents, il habite chez sa mamie.
Mais il habite chez sa mamie alors qu'il va être papa?
Ah oui, ouais, parce qu'il était malheureux. Oui, c'est très 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 malheureux. Il me l'a dit. Hein. Moi, je sais beaucoup de choses parce que... Je ne pouvais pas intervenir, je n'allais pas le voir. Hein. Il m'a parlé, j'ai eu mal mon cœur. Il n'a repassé rien du tout, même pas son âge, rien, il m'a dit. Hein. Et quand il est venu ici, il dit, mamie, oh, mon Dieu, mon âge, il a bien repassé. Ben, je dis, bah oui, qu'est-ce que je fais? Il était content, parce que moi, il a venu ici 3 mois. Hein. Après, il a dit, tu sais, mamie. Parce qu'il a resté 3 mois chez moi. Et après, il a dit, tu sais, mamie, ben, c'est rien, c'est lui qui a choisi. Hein.
Mais son bébé, il va l'élever où?
Je suis en contact avec, quand même. Hein.
Josiane, son bébé, il va l'élever où?
Au mois de mars, mais je ne saurais pas dire quand est-ce.
Non, je n'ai pas dit quand. Où est-ce qu'il va vivre? Où est-ce qu'il va élever cet enfant?
Bah, ils vont se mettre peut-être en ménage. Ils vont se mettre en ménage. Ils vont se mettre en ménage.
D'accord.
Lui, il travaille aussi. Hein. Il travaille. Hein. Il travaille dans un magasin.
Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi, Josiane?
Bah, c'était au sujet pour ma sœur, comment que je serais bien. Parce que j'ai pas fait le deuil, comme j'ai dit à votre collègue, là, qui m'a appelé ce soir, là. Et j'ai dit que je ne savais pas faire le deuil. Alors, je ne sais pas ce que je peux faire. Vous allez voir quelqu'un, peut-être.
Oui, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire son deuil tout seul. Quand la plupart du temps, il faut se faire aider, se faire accompagner.
Demandez
peut-être à votre assistante sociale si elle peut vous conseiller une psychologue.
Ah, d'accord.
Parce qu'effectivement, vous avez enchaîné beaucoup de deuils et vous m'avez dit que c'était des deuils violents à chaque fois.
Vous n'avez pas eu le temps de vous préparer.
Et donc, vous avez enquillé ça comme des couches de souffrance, l'une après l'autre.
Oui, j'ai perdu, excusez-moi l'expression, hein, j'ai perdu mon mari. Bon, le 8 janvier 2003, il est parti, lui. Après, j'ai perdu ma soeur, parce que lui, c'est pour ma soeur. Après, ma soeur, la plus vieille. Après, c'était Thérèse. Hein. Mm. J'étais avec Thérèse, Monique et Jean-Claude. J'ai plus beaucoup de frères et soeurs, j'en ai un, ne me parle pas. J'ai un frère, de temps en temps, il m'appelle, mais c'est plutôt rare.
Mais là,
qu'il allait voir maman.
Il y a deux choses chez vous, Josiane, c'est qu'il y a un problème relationnel avec beaucoup de fâcheries dans la famille, ça c'est un premier axe.
Et puis
tous ces deuils-là, vraiment, ça serait bien que vous trouviez quelqu'un, une psychologue, pour aller en parler un petit peu, pour vous aider à faire ce chemin-là de deuil.
Oui, d'accord.
En plus, le dernier deuil est récent, c'était il y a un an. On dit souvent qu'il faut 2 ans pour faire un deuil, mais il faut 2 ans quand on est accompagné. Et je pense que vous avez besoin d'être un peu accompagné là-dessus.
D'accord.
Hein, d'aller avec quelqu'un, poser tout ça, en parler, mettre des mots.
Oui.
Et puis vous donner, ce que je dis souvent, vous donner le droit d'aller mal et le temps d'aller mieux.
Ah oui.
Parce qu'il faut digérer tout ça émotionnellement, c'est pas évident.
Oh oui.
Déjà, un deuil, c'est beaucoup, mais quand on les enchaîne les uns après les autres, c'est vraiment des couches de souffrance.
C'est dur. Ça, j'ai dit à votre collègue, là, ça fait très dur. Il dit, pourquoi vous m'appelez? Alors, hier soir, avec ma mère, il m'avait appelé aussi, mais j'ai passé hier. Il y avait tellement de monde, c'est vrai, il y avait beaucoup de monde hier.
Hier soir, oui, c'était un peu l'heure de pointe ici, hier soir.
Ah, oui, il y avait beaucoup de monde hier. J'ai écouté, c'était même émouvant. Des fois, j'écoute le malheur, mais des gens, mais... Des fois, j'écoute dans la chambre, parce que j'ai mon expression, je pleure.
Hier, il n'y avait pas que des malheurs, il y avait du rire aussi à l'antenne.
Il y avait des
gens qui avaient la pêche, il y avait des gens qui étaient positifs, dynamiques.
Oui, c'est vrai. Il y en a qui rigolent, c'est vrai.
Ça fait du bien aussi, on est passé de rire au larmes.
Il y a des rencontres quand même là-dessus, c'est vrai.
Et il y a des belles rencontres aussi, il y a tout, c'est ça la libre antenne, c'est un mélange de plein de choses.
Il y a longtemps que ça existait sur le repas.
Ça fait 20 ans, oui.
Et comme c'est je bien, dis moi souvent... j'ai regardé la radio là, et j'ai entendu, du coup, hop, j'ai écouté.
On est au cœur de l'humain et chaque soir est une nouvelle aventure.
Ah ouais, puis j'aime bien aussi, c'est quand c'est fait de la musique, là. Quand vous faites, quand il y a un monsieur qui joue du clairon. Vous savez, de la musique, oui.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Le monsieur
a
joué du clairon. Là, j'étais dans ma chambre et j'ai écouté le monsieur. Et là, il m'a fait un peu rigoler. Moi, j'ai pas pocketé musicien.
Qu'est-ce qu'il jouait comme instrument?
Du clairon, je crois. Et vous avez dit, faites attention à les voisins. Alors lui, il a dit, c'est rien qu'il a répondu, monsieur. Mais c'est plus son nom. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si c'était avec vous, je crois.
Non, je crois pas. C'était avant que j'arrive.
Ah, d'accord. Il était gentil, parce que la dame qui était la deuxième, la première, elle a rigolé, elle a dit, faut faire attention aux voisins. Et lui, elle a dit, ça fait rien, c'est fait de la musique. Elle a dit ça. Parce qu'elle fait de la musique, il y a des gens qui jouent de la musique à votre antenne.
Oui, on fait
des... Si vous allez le faire.
On va le faire dans une seconde, justement. On va vous quitter en musique, Josiane.
Oui, d'accord.
Prenez soin de vous, allez voir quelqu'un, demandez à votre assistante sociale.
D'accord, et moi je vous souhaite une bonne soirée, et puis soyez prudents sur la route, parce qu'avec avec les trucs qu'il y a, c'est pas évident non plus. Hein.
Ça va, ça s'est calmé ce soir, merci
ça
Josiane.
Ça s'est calmé, c'est bien.
Merci parce de faire attention à moi, c'est gentil.
Faites attention à vous, parce que là j'ai regardé à la télé, c'est pas formidable.
Eh oui, c'est bien.
Bon, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous souhaite une bonne nuit, puis je vais écouter votre émission.
Prenez soin de vous, Josiane, je vous embrasse.
D'accord, et puis moi aussi, je vous remercie de m'avoir pris en antenne.
Et je vous quitte en musique, puisque c'est ce que vous
voulez. D'accord, merci.
Au revoir.
Allez, au revoir. Au revoir.
Bonsoir à vous, Martin. Martin ? Allô, Martin ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui, ça y est, je vous entends. Bonsoir, Martin.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui vous amène sur cette libre antenne ce soir ?
Alors, c'est surprenant, parce que, non, pas du tout. J'écoutais la radio par curiosité en rentrant chez moi, et je suis tombé, heureusement ou malheureusement, sur l'émission du... Ça parlait du deuil, et malheureusement, je suis confronté à cette situation douloureuse dans ma vie. J'ai 20 ans et en fait, j'ai perdu mon père très, très brutalement le 25 septembre. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, mon père ne s'est jamais plaint dans sa vie, puis est tombé malade, on va dire, autour du 15 août. 15 août, 17, tombe malade, première hospitalisation, 15 août, et en fait, il était déjà en cancer de phase terminale.
Et il ne le savait pas ?
Non, il ne le savait pas. Donc, décrété malade fin août, décès le 25 septembre.
Ah oui, quel âge il avait ?
60 ans.
Ah, il était jeune, oui. C'était très rapide et très brutal.
Exactement, très... plus que soudain. Donc, c'est vrai que... Ça me surprend de moi-même d'appeler une radio, mais c'est vrai que j'ai besoin de discuter. Je discute beaucoup avec mes grands frères, ma mère, mais beaucoup de choses me déstabilisent au quotidien par rapport à cette situation qui était plus qu'inattendue.
Bien sûr. Vous avez combien de frères et sœurs ?
J'ai trois grands frères.
Trois grands frères. Et comment est-ce que eux le vivent, ce deuil ?
Bien, mes frères, ils ont presque tous la trentaine. Ils ont 29, 30 et 31 ans, donc ils sont tous bien plus grands. Donc chacun le vit différemment, en fait. Donc chacun le vit différemment. J'ai un frère qui le vit plus qu'elle me manque et plus qu'arrive à
le gérer.
Traverser, ouais. Le gérer, enfin si je pourrais dire ainsi. J'ai un frère qui est plutôt très abattu comme je le serais et un autre qui est plutôt taiseux. Il ne dit pas grand-chose, mais c'est assez compliqué pour moi parce que j'ai 20 ans en fait. Hein. Et en fait, ce qui me déstabilise le plus dans l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui reviennent.
Qui vous reviennent.
Beaucoup le soir. Oui, le soir. Beaucoup.
Des scènes de quoi, par exemple?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est toujours une famille très unie. Et en fait, quand mon père était souffrant, a appelé dans la nuit, et un seul de mes grands frères était là, et je me suis rendu qu'avec un de mes grands frères à l'hôpital. Et dans mon cœur, j'ai senti que c'était les dernières paroles que j'adressais à mon père, donc je lui ai dit. Je suis sorti de la chambre et mon frère est sorti quelques instants plus tard. On est descendu boire un thé puisqu'on était au milieu de la nuit. Nous sommes remontés et c'était malheureusement la fin. Donc cette image assez douloureuse de que j'ai compris que c'était les derniers mots que je lui disais. Et c'est une image aussi très forte. Ça m'étonne moi-même d'en parler sur une radio. À l'enterrement, comme nous sommes quatre frères, et on a décidé que nous allions porter notre père.
Oui.
Donc, sur une courte distance, suivi par le cortège, mes frères et moi-même avons armé le cercueil de notre père.
Est-ce que pour vous, ça, c'est une belle image ou c'est une image trop dure?
Pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie.
Ah, d'accord.
Mais c'est une image qui est très, très difficile, puisque soulever une charge, c'est de soulever une charge. Mais là, c'est ce qui m'est difficile, c'est que je me souviens parfaitement du sentiment que j'ai eu à ce moment-là. C'était plus que soulever quelque chose. C'était soulever le poids d'une vie, le poids d'un père et de quelqu'un qui vous a donné vie. Donc, c'est vrai que c'est avec mes frères, bien sûr. C'est sur un cercueil, il y a quatre poignées et nous étions tous armés d'une poignée. Notre père, on le rend à la terre. Je suis parti vraiment à la craie de la Champagne. Et donc voilà, c'est des choses que j'arrive pas à m'enlever de la tête chaque soir.
Bah c'est fort, cette image-là, elle est extrêmement forte, hein, évidemment. Et votre maman, comment elle va?
C'est bien difficile. Parce que c'était inattendu pour tout le monde. Hein. Mes parents se sont connus quand ils avaient 16 ans, se sont mis un peu plus ensemble un peu plus tard. On a passé 35 ans ensemble, 4 enfants, une vie de famille. Donc ma mère, par moment est bien, par moment est mal, mais on est dans l'épreuve, on s'est soudés.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est une chance énorme ça, c'est une force.
Donc c'est vrai que c'est difficile puisque en fait ça remet toute ma conception de la vie en question. Je me suis dit, je travaille, je me suis dit, tiens, peut-être dans un an, je vais partir de chez moi. Enfin, je m'étais dit ça il y a quelques temps, je vais prendre mon envol et faire ma vie. Et ce qui me fait du mal aussi, c'est que j'ai maintenant une peur soudaine de partir de chez moi. Donc je ne veux plus en fait, comme si je faisais machine arrière.
Une peur de partir de chez vous ou de laisser maman toute seule?
De laisser ma mère.
Oui, c'est ça.
Je m'étais dit, pas maintenant, mais je m'étais dit bientôt, je pourrais, pourquoi pas, peut-être partir.
Ce qui est normal, quand on est un jeune homme, on part vivre sa vie loin de ses parents. Hein, c'est logique, c'est la vie.
Mais ce qui me fait du mal, c'est que maintenant, je n'en ai plus envie et je ne veux pas. Puisque...
Je comprends bien, mais de toute façon, pour l'instant, personne ne vous y oblige.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Pour l'instant, vous êtes en période de deuil, toute la famille est en période de deuil. Est-ce que votre maman est aidée? Est-ce qu'elle est accompagnée?
Oui, je pense. Oui, oui.
Oui, elle voit un thérapeute?
Oui.
Donc déjà, elle va faire ce chemin-là, elle va faire ce travail de deuil. Elle va se reconstruire aussi petit à petit. Vous aviez raison tout à l'heure de dire, vous savez, chacun le vit différemment. Le deuil est un chemin personnel et intime. Personne ne le vit de la même manière ni sur le même rythme. Mm-hmm. Et donc là, il va falloir que chacun se reconstruise. Mais vous, du haut de vos 20 ans, est-ce que c'est le premier deuil auquel vous êtes confronté?
Non.
Non, vous en avez connu d'autres?
6.
6? Mm-hmm. Vous avez perdu qui?
Mes grands-parents.
Oui.
4. J'ai eu une copine quand j'étais au lycée, une histoire qui était très bien, qui lui est arrivée exactement la même histoire. Exactement. Donc c'était pas mon deuil personnel. Donc,
c'est-à-dire, elle a perdu son père à l'époque, c'est ça?
De la même façon que moi.
De la même façon, oui.
Exactement la même histoire, mot pour mot. Et puis, une tante. Mais bon, c'est des choses que j'ai réglées où, quand je parle de mes grands-parents, c'est des choses où j'étais plus petit. Donc, c'est des choses qui ne me blessent plus maintenant. C'est des choses qui ne sont plus, qui ne me font pas du mal au quotidien ou qui ne me blessent pas. Donc, c'est pas très, très grave pour moi. Mais c'est tout mon monde qui s'écroule puisque c'était inattendu. Quand quelqu'un est malade, on peut préparer son psychisme peut-être, je pense, à dire au revoir. Mais là, c'était... Il y a des choses qui m'ont marqué, en fait. Mon corps a réagi d'une façon où, quand mon père était malade les quelques semaines avant qu'il décède, je suis tombé malade pour la première fois de ma vie, vraiment, vraiment malade. Pendant 5 jours, je ne pouvais plus dormir. J'avais de la fièvre, mais j'avais de la fièvre. Et pendant 5 jours, j'étais incapable de me lever. Donc, c'est des choses qui me font du mal aussi, puisque je suis rentré et je rentre encore dans des états où je ne sais pas me contrôler, en fait, ça me fait peur aussi.
C'est-à-dire des états de quel genre d'état?
Bah, des états d'anxiété, des états de détresse. Par exemple, en ce moment, je suis en repos, enfin, je ne travaille pas. Et ces 3 derniers jours, j'ai passé vraiment à être... terrassé par le mal, quoi. J'ai pas envie de faire quelque chose alors que on propose de sortir, de faire des activités, de faire un peu de sport, mais la douleur est tellement forte que je n'arrive pas, en fait.
Oui, vous êtes vraiment en plein deuil, c'est tout à fait ça. Mais est-ce que vous êtes accompagné aussi là-dessus ou pas? Est-ce que vous connaissez les différentes étapes du deuil? Est-ce que vous connaissez tout ça déjà ou pas?
Non, pas du tout. C'est pour ça parce que je suis un thérapeute. J'ai commencé une thérapie. Mais je ne sais pas, en fait la question que je me posais vraiment, j'appelle pour ça, pour vraiment cette question, est-ce qu'on arrive à se remettre d'un décès violent, surtout celui de son père?
Oui, bien sûr, mais ça met du temps. Le temps n'est pas le même pour chacun, il y a différentes étapes, alors j'en parle souvent sur cette antenne, mais on passe tous par les mêmes étapes. Quand on perd quelqu'un, la première étape qu'on traverse, c'est ce qu'on appelle le choc. Mm-hmm. Quelquefois, c'est juste après le déni.
Oui, j'ai fait du déni. Ça, j'en ai fait.
Non,
oui.
Non, c'est pas possible. Vous avez connu ça. Vous savez, c'est vraiment le choc, c'est le « Ah ! Quelle horreur !» Et non, c'est pas possible. On se réveille tous les matins en se disant « C'est un cauchemar. C'est pas vrai. C'est pas arrivé pour de vrai. C'est pas possible. »
C'est pour ça que je suis tombé malade. En fait, j'ai fait du déni quand mon père était malade. C'était tellement fort, c'est pour ça que je suis tombé 5 jours... où je pouvais pas me lever parce que je n'acceptais pas la situation.
Votre corps a exprimé ce que vous n'arriviez pas à dire, quoi.
Et c'est vrai que le jour où j'ai pu parler avec mon père, parce que je n'arrivais pas, parce que j'arrivais pas à comprendre ou à voir l'image de la maladie, le jour où j'ai parlé, où j'ai émis un son, j'ai arrêté d'être malade.
Les symptômes se sont calmés, bien sûr. Oui. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle la colère ou la négociation. C'est quand on en veut à la terre entière. Vous êtes passé par là déjà?
Je suis en train de passer par là.
Oui. C'est donc la troisième.
C'est dur. C'est très dur parce que finalement, je suis quelqu'un de très calme qui temporise les choses et je n'ai pas, j'ai pas d'énervement. Je suis pas quelqu'un de très impulsif, mais je sais. Mais je sais me temporiser et là, je n'arrive pas à me contrôler. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, je prends ma voiture, je vais faire une course, je vais faire un tour, pour X raisons, mais une futilité où quelqu'un me contrarie, ça me déstabilise quand je n'accepte plus la contrariété. C'est-à-dire que je vais faire une action, quelqu'un va me dire non, vaut mieux faire comme ça,
Vous allez bondir tout de suite, ouais.
Mais vraiment, mais je vais réagir, mais ça n'a pas de sens, parce que c'est futile. Mais je n'arrive pas à me contrôler, en fait.
Parce que vous êtes dans cette phase de colère où on en veut à la terre entière. Et une goutte de plus, et c'est pas possible, quoi.
C'est ça.
Donc ça, c'est la troisième phase du deuil. Quand on a traversé cette phase-là, on arrive à une phase de résignation et d'abattement, où on est fatigué, où on n'a plus envie, où on finit par accepter, mais ça reste très difficile. C'est là où on sombre souvent dans la dépression, dans la tristesse. Et ensuite, et je vous garantis que ça arrive toujours, il y a une phase d'acceptation et de reconstruction.
Pour l'instant, je serais plus dans cette phase de colère et d'abandon. Je pense que je suis en train de basculer dans une phase où de colère et d'abandon en même temps, mais toujours très colérique.
Et la colère, elle peut aussi se révéler contre la personne qui est partie, et c'est humain, parce que c'est de l'ordre de « pourquoi tu m'as abandonné, tu n'avais pas le droit de me laisser ». Quelquefois, on peut ressentir ce genre de sentiment aussi. On en veut à celui qui est parti parce qu'il nous a laissé tout seul, quoi. Et qu'on n'a pas été préparé à ça.
C'est une phrase qui me déstabilise beaucoup.
Vous avez ressenti cette colère-là ou pas? Cette envie de dire à votre papa pourquoi tu m'as laissé? Parce que vous parliez d'abandon et l'abandon, c'est un petit peu ça, en fait.
Oui, excusez-moi, c'est très difficile d'entendre ça. Oui, tout à fait, oui.
Mais ce que je cherche à vous dire, Martin, c'est que c'est juste humain. Ce sont toutes,
mais
toutes les réactions
c'est
humaines
dur de
qu'on a quand on traverse.
Accepter d'avoir pensé ça, je trouve ça dur pour moi.
Bien sûr, mais c'est normal, c'est humain. On a le droit d'être en colère contre quelqu'un qui est parti parce que, bien évidemment, il ne l'a pas fait exprès, mais il nous a fait du mal. Et on a tous connu ces moments-là, quand on a perdu un être cher, de se dire, mais tu n'avais pas le droit de me laisser. Et donc, il ne faut pas vous en vouloir pour ça, c'est complètement humain, c'est complètement normal de passer par toutes ces phases-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces phases, ces différentes étapes du deuil, elles ne sont pas structurées. C'est-à-dire qu'on peut les traverser une par une, les unes après les autres, mais on peut aussi faire des marches arrière. Cette colère, elle peut se calmer, et puis dans quelques temps, même quand on est dans l'acceptation, elle peut revenir. On va être obligé de faire une petite pause, Martin, si vous vous permettez. Vous m'attendez? Je vous récupère de l'autre côté des infos et on continue cette conversation si vous le souhaitez.
Très bien.
Merci beaucoup. À tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Nous sommes encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, si vous souhaitez prendre la parole, nous appeler au 3921. Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir au standard et à vous accompagner en douceur jusqu'à moi. Nous pouvons parler, vous le savez, de tout sur cette libre antenne, de tout ce qui fait la vie, votre vie, de vos chagrins, de vos problèmes, de vos douleurs, de vos peines, mais aussi de vos joies, de vos bonheurs, de vos expériences positives. 3921 donc pour nous joindre par téléphone et puis par SMS. Je vous rappelle que c'est le 7, vous tapez le 7 3921 en commençant par le mot nuit, des SMS pour apporter un mot gentil, un soutien ou suggérer pourquoi pas une solution, une idée. Nous sommes ensemble dans l'ambiance feutrée de ce studio jusqu'à 1h du matin.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Martin, vous êtes toujours là ?
Je suis bien là.
Bon, c'est gentil, merci d'avoir patienté. Vous savez, quand on perd un papa ou une maman et quand on est encore jeune, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une dualité à l'intérieur de soi. Il y a comme une partie qui redevient un tout petit enfant qui a désespérément besoin d'être consolée. Et puis il y a une autre partie qui, d'un seul coup, devient mature et grandit très violemment. Est-ce que vous ressentez un petit peu ça?
Oui, je ressens le... J'ai remarqué une chose aussi, mais c'est pour ça aussi que je l'appelle, je l'entends, mais la violence des choses, parce que c'est vraiment vrai, ce que vous venez de dire est très, pour moi, c'est une vérité qui est bonne à entendre, mais je trouve ça très dur à entendre. Parce que c'est vrai, c'est ce qui se passe. Donc c'est être face à ma propre réalité.
Oui. C'est quelque chose d'extrêmement violent, mais je vous garantis, vous savez, je parle le moins possible de moi sur cette antenne, mais j'ai perdu mon papa à l'âge de 20 ans pile. Je sais cette violence. Moi, il est mort d'une crise cardiaque, il s'est couché le soir, il allait bien, et à 6h du matin, on l'a trouvé mort. Donc je sais cette violence, je sais cette douleur, et je vous garantis qu'on s'en remet. Et qu'on...
J'espère, puisque en fait, je veux et je serai... toujours été un garçon très positif, dynamique et qui trouve des solutions et qui va de l'avant. J'ai toujours été dans ma personnalité ancrée comme ça. Et en fait, ce qui me fait aussi du mal, c'est que pour le moment, je n'arrive pas ou je ne me retrouve pas dans la personne qui j'ai envie d'être et qui je suis, d'être positif, joyeux, dynamique, plein de bonne volonté. Et en ce moment, tout ce que j'étais, tout ce que je suis vraiment au fond de moi, j'arrive pas à l'exprimer. Ça, c'est aussi une frustration qui est assez importante.
Ça me paraît un peu. Soyez indulgent avec vous-même, Martin. Vous êtes déjà à 20 ans. On est en chantier, on est en construction dans la vie. Mm-hmm. Et en pleine construction, vous avez pris un scud. Vous avez pris un gros coup sur la tête, donc c'est normal. Ça me paraît complètement logique. Et comment est-ce que comment vous posez cette question-là? Quel est votre rapport à la mort? Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'un après, de pas d'après, de quelque chose ou pas?
Alors, personnellement, étant issu d'une famille relativement catholique et libre, je n'ai aucun doute sur la vie de l'esprit après le décès. Mmh. Quelque chose dont j'ai une certitude très profonde et j'en suis certain. Et ça, en fait, je n'ai pas de doute là-dessus. C'est quelque chose dont je ne me sens pas abandonné. Mon père avait un métier, j'ai pas envie de dire lequel, qui était très, était enseignant, mais était enseignant d'œnologie, enseignait l'œnologie, la terre et le vin,
oui,
en Champagne. Mais était un artiste, un sculpteur, et a toujours ri toute sa vie en disant vous serez bien emmerdé quand je serai plus là avec les cailloux. Et c'est vrai que les cailloux, parce que il sculptait la craie de la Champagne ou alors des d'autres cailloux. Donc nous avons des dizaines de milliers de kilos de cailloux et de sculptures, mais qui m'a toujours dit, on laisse quand, parce qu'il était un artiste dans l'âme et un intellectuel. Mon père était un intellectuel profond et il a laissé une belle trace. Là, je suis allé manger chez des collègues de mon papa, qui sont aussi mes amis, qui ont des filles qui ont mon âge. Et il leur a offert une sculpture, puisque c'est une famille où ils ont eu deux filles qui ont mon âge, ou un peu plus âgées. Et donc, il y a les parents. Et donc, c'est une sculpture représentant les parents et l'enfant, mais très sobre. Enfin, c'est très fin. Et c'est sur la terrasse depuis des années. Je vais chez certaines personnes, où je vais dans mon jardin et je vois une trace de mon père, un bébé Bill par le temps.
Comme des clins d'œil de sa présence, en fait.
Bien sûr. Mmh. Sur ma table de chevet, j'ai une statue. Mon père ne s'exprimait pas ou ne parlait pas ou parlait que pour l'important. Ne parlait que pour les choses importantes. Donc un taiseux, très. Un intellectuel taiseux. Et j'ai sur ma table de chevet quelque chose qui me marque. Pour mes 17 ans, je me souviens, il s'est levé. Mon père était loin d'être matérialiste du monde. Se lève au fond du jardin et à un atelier, sculpte quelque chose et revient et me le donne. Donc c'était un petit personnage avec un sourire en coin, avec un petit sourire en coin, comme mon père ne disait pas je t'aime, mais avec ce petit sourire en coin. Et il y a une image qui est très forte. Quand mon père est décédé, il s'est passé un petit truc, un petit charabia à l'hôpital, mais bon, peu importe. Quand il était installé et que j'ai pu accéder en famille tout seul, je suis rentré. Quand je l'ai vu, il avait le même sourire en coin qu'il a eu toute sa vie. Mmh. Toute sa vie, quand il était heureux ou il avait il était content, il ne parlait pas, mais il avait été ce petit sourire malicieux en coin. Et c'est mon père, c'était la marque de fabrique de mon père. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il sourit, il est mort en souriant.
Il est parti avec ce petit sourire-là.
Et je me suis dit, je n'en parle pas parce que je veux que personne ne me contredise, je veux garder cette image. Et quelques heures plus tard, mon dernier frère arrive, puisqu'il n'était pas là, à côté, arrive, rentre, le regarde et dit, cette phrase m'a marqué, putain, ce con, il sourit. Et c'était tellement, c'était tellement déstabilisant d'employer ces mots-là.
C'était le cri du cœur, quoi.
Il a dit « Putain, ce con, il sourit ». Et là, j'ai jubilé intérieurement en disant « Je suis pas fou, mon père est mort en souriant ».
C'est pas une vue de l'esprit, c'était vraiment ça, quoi.
Et parce que j'en avais parlé à personne. Mm. Donc, j'ai pas fantasmé quelque chose. J'ai vu. Et quand je me couche et que je vois cette statue qui est pour moi la chose la plus importante matérielle que j'ai dans ma vie, et je me sens pas abandonné puisque cette chose qu'il a fait en pleine conscience, il est mort avec ce même sourire, cette petite statuette. Et ça me donne espoir, cette statue. Les autres, beaucoup de statues, mais celle-ci particulièrement, parce qu'elle est mienne, elle est la mienne, donc me donne beaucoup d'espoir.
Martin, il y a un très joli témoignage qui vient d'arriver pour vous par SMS. C'est Rose qui vous écrit « Comme ce père devait être heureux d'avoir ce fils, je suis bien certaine que sa lumière continuera à briller pour lui. »
C'est gentil.
C'est joli, hein ?
C'est gentil, bien sûr. Moi, je crois, et je ne crois pas, j'ai la certitude de quelque chose après la mort. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, puisque ce sont mes convictions personnelles, mais je n'en ai aucun doute. Et je me sens, c'est ça qui me fait par moments, je ressens les choses, je ressens cette énergie très profonde du non-abandon de mon père, je ressens toutes ces choses, toute cette culture qu'il a laissée, ces bibliothèques entières de livres où je pourrais me plonger toute ma vie. Mais par moments, quand je redeviens triste, j'ai cette angoisse de... Je ne peux pas le voir, je ne peux pas être conseillé d'une image paternelle. J'ai toujours ma mère qui est bien là, mes parents étaient ensemble toute leur vie. Mais je n'ai plus cette image paternelle. Et ce qui me rend difficile, c'est que je me dis, quand j'aurai des enfants, quand je me marierai, quand j'aurai d'autres projets que je vais me construire, je n'aurai pas le regard si important pour moi, validateur d'un père.
Bien sûr.
Qui est difficile, je n'accepte pas ça.
Mais c'est ce qu'on appelle les deuils secondaires, c'est-à-dire que quand on perd quelqu'un, on perd beaucoup de choses qui sont tous les projets qu'on aurait eus avec cette personne, effectivement. Un jour, je leur ai présenté ma femme, un jour, je leur ai présenté mes enfants, un jour, ceci, un jour, cela, et ce jour-là n'arrivera pas. Et c'est aussi ça, le deuil, c'est accepter que tout ce qu'on avait envisagé un jour, finalement, n'arrivera pas. Et c'est effectivement quelque chose de difficile, et c'est ça, le chemin du deuil, c'est ça aussi. C'est accepter la perte de la personne et accepter aussi tout ce qu'on aurait pu faire avec cette personne.
Mais j'ai quand même envie de raconter que dans cette... Puisque je suis quelqu'un qui reste toujours positif au fond de moi-même, une chose que je trouve assez belle. Donc c'est cette petite histoire de la statue, pour moi, qui me semble très belle. Et la seule fois où j'ai eu le courage, on m'a accompagné, quelqu'un m'a accompagné pour aller voir mon père au cimetière. L'instant où je me suis mis devant, le soleil s'est levé et c'était une scène très, très douce.
Très douce.
Le soleil s'est levé et la lumière et la chaleur du soleil, alors qu'il faisait un peu froid, un peu gris, n'éclairait que moi. Ou n'éclairait que dans le biais du rayon, sur le pan de où j'étais, de terre, n'éclairait que moi et vers mon père. Et à ce moment-là, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire, puisque je me suis dit, je ne me sens pas lésé, je ne me sens pas abandonné. Et j'ai ri. Et à ce moment-là, j'ai ri et j'ai trouvé ça très, très surprenant de rire.
Voilà. Vous faites preuve d'une maturité étonnante pour votre âge, Martin, vraiment. Il y a beaucoup de messages qui arrivent. Il y a Romu qui nous dit, je trouve Martin très touchant lorsqu'il parle de son papa, courage à lui. On se remet de la perte d'un papa comme on se remet d'une amputation. La vie continue, certes, mais pas comme avant. Et il y a Catherine qui nous dit « J'ai été ravagée, furieuse, désespérée à 13 ans quand j'ai perdu mon grand frère. Avec le temps, j'ai apprivoisé la douleur comme on le ferait avec un animal sauvage. Je pense à lui aujourd'hui dans la douceur, j'ose dire. Je vous conseille l'excellent ouvrage du docteur Christophe Fauré, « Vivre le deuil au jour le jour ». Bon courage, et c'est signé Catherine donc. Est-ce que vous
Ma mère s'appelle Catherine.
je pense pas que ce soit elle, mais bon.
Non, mais je ne pense pas non plus, mais c'est parce que j'aime ce prénom.
est-ce que vous lisez, Martin ?
Je commence. J'ai déjà beaucoup d'ouvrages, puisque Mon père a été rapidement dans sa vie un jeune psychanalyste. Et j'ai découvert, puisque je ne suis pas un grand lecteur, beaucoup de choses, beaucoup de choses à lire chez moi où je peux être accompagné. En fait, beaucoup de bouquins sont dans la bibliothèque. J'en ai déjà sélectionné quelques-uns qui pourront me permettre d'avancer.
Alors moi, j'aimerais vous conseiller plusieurs choses, si vous le permettez, si vous en avez envie.
Ouais. Alors attendez, parce que je m'étais arrêté sur le... dans ma voiture.
Non, mais sinon, vous savez, sur ma page Facebook, le lendemain des émissions, je mets toujours les références des livres dont je parle.
Oui, mais c'est vrai que j'aime bien noter. Attendez, je vais juste trouver un stylo. Bon, je vous écoute, je vais retenir sinon.
Globalement, vous parliez tout à l'heure de cette douceur que vous avez ressentie. Il y a quelqu'un qui en parle très très bien, c'est Elisabeth Kübler-Ross.
Elisabeth Kübler-Ross,
qui a écrit de nombreux bouquins, de nombreux livres sur la mort, notamment... La mort est un nouveau soleil, j'y pensais quand vous parliez de ce rayon de soleil. Et tous les livres qu'elle a écrits, c'est quelqu'un qui a accompagné des centaines et des centaines de gens en fin de vie et qui parle aussi de ces moments de rire et de douceur, curieusement. Elle en parle très très bien. Mm-hmm. Donc je vous conseille ces livres à elle. Bien évidemment, celui dont je parle souvent sur cette antenne, c'est Jean-Jacques Charbonnier, qui parle de toutes les expériences de ce qu'on appelle en anglais la near-death experience, vous savez, expérience de mort imminente. De gens qui ont été déclarés morts et qui sont revenus.
Et qui sont revenus à la vie et qui ont vu d'autres chemins lumineux.
Si ça vous intéresse, Jean-Jacques Charbonnier est vraiment un excellent auteur là-dessus. Et puis, il y a un autre livre dont je n'ai pas encore parlé sur cette antenne qui s'appelle « Dites-leur que la mort n'existe pas ». Et c'est écrit par Jean Winter. Mm-hmm. « Dites-leur que la mort n'existe pas » par Jean Winter. C'est un pavé, mais je pense que ça va vous faire beaucoup de bien de lire ça. C'est sur plusieurs générations. Et ça explique beaucoup de choses et il y a beaucoup de témoignages vraiment bouleversants, passionnants et qui pourront vous accompagner sur ce chemin-là.
C'est très gentil de votre part. Et j'aimerais finir sur une seule chose, peut-être pas la plus joyeuse, mais mon oncle, j'ai un oncle médecin, qui est un vieux de la vieille qui... vie pour pour soigner, et j'avais peur de dire les choses à mon père comme c'était quelqu'un que je comprenais et que je comprends toujours intuitivement. Donc on ne parlait pas, mais on se comprenait par les mots, par les gestes ou par les sentiments. Mmh. Et mon père cuisinait beaucoup, il nous rassemblait autour de la cuisine, et la dernière chose que j'ai dit à mon père et que j'ai fait part à tout le monde à l'enterrement: quand j'étais petit, tu me faisais des fraisiers. Et quand j'étais grand, tu me faisais aussi des fraisiers. Et je suis heureux, sincèrement, que ce soit la dernière phrase que j'ai dit à mon père. Et je suis parti de la chambre. Et à ce moment-là, j'ai compris ce qui se passait. Je me suis incliné devant mon père, comme une marque de respect, comme certains pays pourraient le faire. Et au fond de moi-même, je ne l'ai pas dit. Et au fond de moi-même, je l'ai pensé très sincèrement, avec toute humilité. Je l'ai pensé très fort et il l'a senti. Je lui ai dit: je te laisse mourir. Mmh. Et je suis sorti de la chambre, et une demi-heure après, ainsi que mon grand frère est sorti plus tard, mon père est décédé. Donc,
vous l'avez aidé à partir, à ce moment, bien sûr. Ça, je peux tout à fait l'entendre, et je l'ai beaucoup entendu des gens qui ont accompagné des personnes qui allaient partir quelquefois. Quand un proche a trop de chagrin, c'est extrêmement compliqué à vivre pour celui qui est en train de mourir.
Mais c'est ce qui est formidable, c'est ce que jusqu'au bout, c'est qu'il attendait de voir mon dernier frère, Stan, qui nous a tous vus, et peut-être qu'il avait besoin d'entendre les dernières choses. Et pour ma part, moi, je me suis incliné par respect, par mon père, pour mon père, et j'ai pensé très fortement et sans regret, je te laisse mourir. Très dur, mais il n'y avait pas d'autre issue.
Non, vous lui avez fait savoir que vous étiez prêt. Et ça peut être une libération aussi pour lui. Attendre que ses quatre fils soient venus et qu'ils sont OK avec ça, qu'ils sont prêts. Aussi douloureux que ce soit, ils sont prêts. Et ça l'aide à partir plus sereinement aussi, c'est important.
Mais je ne lui ai pas dit, je l'ai pensé.
Oui, j'ai bien
mais
compris.
Je sais qu'il l'a compris.
C'est ce que vous me dites, vous avez la perception qu'il l'a ressenti. Mais je pense qu'en plus, au moment du départ, comme ça, il y a une espèce d'ouverture, de compréhension des choses où il n'y a même plus besoin de mots à ce moment-là. Mmh. Vous avez ressenti ça ?
Tout à fait.
L'émotion est tellement forte que tout passe par là.
Bien sûr. Bien sûr.
Alors, on a un nouveau témoignage qui arrive pour vous, Martin. Effectivement, quelqu'un qui me dit « Pour Romain, certains livres du docteur Charbonnier sont très apaisants. » Ça, je vous l'ai déjà recommandé. « Ce jeune garçon qui parle peut se faire confiance. À travers sa voix, j'entends qu'il est déjà pas mal solide et construit. C'est vrai que vous faites preuve d'une maturité impressionnante. Qu'il laisse du temps au temps et ne juge pas son ressenti, je suis sûre que sa belle sensibilité l'amènera à un beau futur. » Et Marc qui vous dit « Martin, un très beau témoignage. Vous montrez bien les différentes étapes du deuil. Courage à vous. Il devrait être fier de vous. » Je pense qu'il parle de votre papa. Ouais, je pense qu'il peut être très très fier de vous, là-haut. Ça va, Martin?
C'est dur.
Prenez le temps.
C'est vrai que cette image de porter avec mes frères, c'est quand même...
Elle est puissante, cette image-là. Bien sûr qu'elle est puissante.
Vous savez, à ce moment-là, on a tous porté des choses, mais à ce moment-là, je me souviendrai toute ma vie. Le sentiment que j'ai eu, j'ai porté le poids d'une partie de mon créateur, mon père, avec sa descendance, avec mes frères, et c'était plus que lourd. J'avais l'impression, j'ai eu cette sensation de m'enfoncer jusqu'au genou, mais je n'avais pas le droit de m'enfoncer plus qu'au genou. C'était très surprenant, parce que j'ai porté mes sur quelques mètres, avec mes frères. Mais j'avais l'impression d'être enterré jusqu'au genou, de m'enfoncer dans le sol, mais comme si j'avais un sentiment de ne pas avoir le droit d'aller plus loin, de ne pas m'enfoncer plus. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, cette image.
Si vous exprimez correctement, Martin, bien sûr. Il fallait tenir debout et en même temps, il y avait tout ce poids à porter.
Très, très, très dur.
C'est cette dualité dont je vous parlais tout à l'heure. D'un côté, il y a un petit enfant qui s'écroule et qui a besoin qu'on le soutienne. Et de l'autre, il y a d'un seul coup un jeune homme qui devient un homme rapide, beaucoup plus vite que prévu.
Très, très dur. Et mon père était aussi un mélomane. Et il a été enterré au moment de la mise en terre. Il a été enterré avec une violoncelliste qu'il aimait, avec le prélude de Bach, avec la musique classique. Et il est parti dans la craie de la Champagne, puisque je viens de la Champagne-Ardenne. Il est enterré dans la craie de la Champagne. Nous avons jeté des feuilles de vigne d'automne sur le prélude de Bach.
Ça aussi, c'est une belle image.
C'est une très belle image.
Ouais. Vous savez, quand des gens m'appellent pour me parler de deuil, je parle souvent aussi d'actes symboliques. Alors, j'ai compris qu'il y a pour vous cette petite statue qui a une valeur exceptionnelle. Mais est-ce que vous avez posé un acte symbolique, comme par exemple planter un arbre ou, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait être quelque chose de juste entre lui et vous, voyez?
C'est cette statue.
Si
mon père s'exprime et je comprends des choses après sa mort, grâce à son art, parce qu'il y a des statues dans mon jardin, dans des ateliers, dans des endroits, dans des gens, dans des cadeaux qu'il a offerts. Il a offert un geste. Et mon père, en fait, c'était vraiment un intellectuel profond qui aimait les domaines et qui était bon. J'ai passé la nuit, il y a quelques nuits, à lire des lettres de gens, de professeurs, d'enseignants, parce que mon père était du corps enseignant, d'histoire-géographie, de gens à qui il a aidé à faire des thèses. À lire, ces choses qui sont surprenantes, quand il offrait une statue, c'est quelque chose qui reste. Je suis allé manger chez quelqu'un, là. Il y avait une statue. Et voilà, mon père est parti, mais a laissé une trace. Et m'a toujours dit, m'a toujours fait comprendre qu'est-ce qu'on laisse comme trace sur cette terre. Et pour mon père, il a laissé une famille et il a laissé la trace de ses sculptures par centaines.
Oui, moi je dirais surtout qu'il a laissé dans votre cœur des valeurs extraordinaires.
Oui, aussi.
De ce que j'entends là, il a fait du bon boulot avec vous en tout cas.
Mais pas qu'avec moi. Vous savez, j'ai lu des lettres d'élèves à 3h du matin, une jeune fille qui est venue me parler du jour de l'enterrement qui m'a écrit, un prof, le meilleur prof que j'ai eu dans toute ma vie, ou un prof extraordinaire. Qui ne m'a pas laissé, qui ne m'a pas lésé, qui ne m'a pas abandonné. Les mots étaient peut-être mal choisis par moment, mais une douceur extrême. Et derrière, j'ai enchaîné sur la plus belle lettre, la lettre qui me marque, qui me fait du bien. Jean-Marc aux mains d'or. Parce que mon père était bon dans son métier, était représenté, mais il faisait beaucoup de pâtisserie. J'ai lu cette phrase qui me fera hurler de rire. Il faisait de la pâtisserie, le nôtre ou Pierre Hermé, des grands pâtissiers. J'aimais ça. C'est pour ça que j'ai dit cette phrase quand mon père est mort. Et dans la lettre, elle disait, autour de ces discussions philosophiques, cette forêt noire exécutée finit à la truelle de maçon. Parce que mon père était tout sauf matérialiste et n'avait pas de pelle à tarte ce jour-là. Donc, il a chopé une truelle à maçon, qui n'était pas bien lavée, je pense, pour faire un gâteau extraordinaire, et a fini le décor à la truelle de maçon. Et ça m'a fait rire de voir cette lettre de Jean, de prof d'histoire-géographie, lire cette lettre-là m'a fait beaucoup rire. Beaucoup, beaucoup rire. Bon, je m'embarque dans mes histoires, là, mais...
J'ai l'impression qu'il avait une sacrée personnalité, votre papa.
Oui. À l'enterrement, ces petites références catholiques, je pardonne si les gens ne sont pas croyants. Enfin, je pardonne rien du tout, je m'excuse si les gens n'ont pas les mêmes croyances que moi. À l'enterrement, il y avait du monde partout, les gens étaient debout, les portes étaient ouvertes. Et ça me fait penser à cette petite histoire quand Jésus arrive quand Jésus arrive sur son âne, ça va me revenir, je ne sais plus qui monte dans l'olivier, ça doit être Zachée, je ne sais plus, ça va me revenir. Pour regarder, Jésus arrive, je ne compare pas du tout mon père à cet homme, pas du tout, mais il y avait un monde qui était fou. Et le jour de l'enterrement, j'ai voulu parler le premier, la dame de la cérémonie a parlé, et j'ai parlé le premier. Et j'ai dit des mots qui m'ont été soufflés. J'ai préparé des nuits entières les quelques mots que j'allais dire. Et à ce moment-là, tout s'est remis en question. Et j'ai dit deux phrases qui m'ont sonné, puisque je ne les avais pas préparées. Et j'ai l'impression qu'on m'a donné les mots à ce moment-là.
Vous avez été inspiré. Et à ce moment-là,
j'ai regardé l'assemblée. J'ai dit, je vous remercie à chacun et chacune d'entre vous d'être présents aujourd'hui. J'avais mes trois frères autour de moi. Et j'ai dit, je vais prononcer quelques mots sur l'amour. J'aimerais que chacun d'entre vous pense à l'amour que vous avez en chacun d'entre vous. Vous pensiez à l'amour que vous possédez et que vous pouvez partager au quotidien. Et ces quelques mots me déstabilisent encore puisque je ne sais pas d'où ils sortent et je ne les ai pas préparés. Et dans l'assemblée...
Je crois que vous savez d'où ils sortent.
Oui. Mais je fais attention. Oui. Et dans l'assemblée, j'ai compris l'amour qu'était l'amour, parce que dans l'assemblée, il y avait des chrétiens, il y avait des gens qui ne croyaient pas, des musulmans, des juifs, des hétéros, des homos, des gens seuls, des blancs, des noirs,
des humains,
des sportifs, mais de tout.
Juste des humains.
Des humains, mais pour moi c'est important puisque c'était peu importe qui ou tu es ou peu importe qui tu es, on peut partager ensemble et c'est ça que si j'ai envie de retenir une chose de mon père, peu importe l'individu que tu es, si on peut discuter, on peut partager.
Quand je vous entends, Martin, parler comme ça, je pense que vous devriez vraiment écrire. Vous pourriez écrire un livre pour votre père ?
Ah ben alors, je ne sais pas, je n'ai pas, j'arrive à m'exprimer correctement, mais je ne sais pas poser les choses sur papier.
Oh, ça c'est purement mécanique, vous pourriez trouver quelqu'un qui vous aide à transformer ça en écrit, mais tout ce que vous avez à dire, toute cette maturité, toute cette ouverture, cette lumière qui est en vous, cette sensibilité, ça serait dommage de ne pas en faire quelque chose d'écrit. Je sais pas, je verrais bien écrire un beau livre pour votre papa, en hommage à lui. Quelque chose que vous pourriez laisser un jour à vos enfants aussi, voyez.
Mm-hmm.
Parce que vous me dites par exemple, vous me disiez tout à l'heure, un jour j'aurai une femme, j'aurai des enfants, et ben ils le connaîtront pas, ils l'auront jamais connu.
Et peut-être... Bien sûr que si. Je me reprends. Les gens vivent par rapport à la parole des autres.
Par rapport à ce que vous allez raconter de lui, à ce que vous allez ramener comme souvenir de l'époque, mais. Je sais pas, je me disais que, vu tout ce que j'entends, vous avez tellement de choses et vous en parlez tellement bien que je suis sûre que vous pourriez écrire un très beau livre pour votre famille, pour vos futurs enfants. Ce serait un bel hommage à lui rendre, à ce papa. Tous ces souvenirs qui sont là, toutes ces histoires, tout ce qui se mélange en ce moment avec beaucoup de tendresse et en même temps de douleur dans votre cœur, c'est une source d'inspiration aussi.
Mais je l'entends, mais ça me touche personnellement, et vous, les gens qui... mais à part, ça c'est quelque chose qui me serait personnel, ça n'intéresserait personne.
Bien sûr,
c'est mon histoire.
Mais c'est pour vous, pour votre famille, pour vos futurs enfants. Je ne vous dis pas d'écrire quoi que. Je me demande même si ça ne pourrait pas intéresser d'autres gens aussi, vous savez. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir et qui vous trouvent vraiment passionnant. La sensibilité que vous dégagez, la manière dont vous en parlez, c'est rien que ça, c'est déjà...
Mais ce n'est pas mon but d'être démonstratif. C'est vrai que j'ai appelé par vérité, je rentrais, j'allais faire une petite soirée, boire 2-3 bières avec des potes. Et j'ai entendu madame, je ne sais pas son prénom, qui est passée avant, et j'ai été sonnée, et je me suis arrêtée, je me suis dit, j'ai jamais eu l'intention d'appeler pour parler. J'étais tellement eu le besoin de parler que, en fait, j'ai eu envie instinctivement d'appeler.
Eh bien, tant mieux, parce que je suis un peu là pour ça aussi, vous savez. C'est mon rôle.
C'est gentil.
Vous offrir une épaule pour vous poser 2 minutes et une oreille pour vous écouter aussi. Je vous trouve vraiment bluffant. À 20 ans, je n'avais pas le quart du tiers de votre maturité à 20 ans, je peux vous le garantir. Ni de cette ouverture spirituelle, ni de cette ouverture humaine.
Mais il y a une chose dont je suis certain dans mes mal... Là, je parlais pour tout ce que j'ai dit avant, c'était pour moi-même, mais aux gens qui écoutent, peut-être que je... Ça, c'est une chose dont je suis intimement persuadé. Le corps meurt, mais l'esprit vit. Et ça, j'en suis plus que persuadé. Et c'est l'espoir que j'ai, et que si d'autres l'entendent, qu'ils le prennent, puisque ça, c'est, pour moi, c'est ça.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a enseigné, ou c'est quelque chose que vous avez en vous, comme ça? Vous avez une espèce d'intuition?
Alors, je fais taire mes mots. C'est quelque chose que on m'a enseigné, quelque chose qui m'est au fond de moi-même donné depuis longtemps. Donc oui, je ressens beaucoup de choses, je suis très intuitive, je ressens beaucoup de choses. Hein, par exemple, moi, poser les mains sur les statues de mon père, c'est une connexion qui se fait. L'élément de la terre connecté au ciel. C'est des choses qui m'appellent énergétiques. Des connexions énergétiques qui se font. Moi, je suis bien là, lui, il est bien décédé, mais l'esprit ne meurt pas.
Vous êtes plus que connecté, Martin, ça c'est sûr.
Oui, ça, je l'ai remarqué depuis très longtemps.
Vraiment, mais... si vous pouvez, faites-vous offrir à Noël ce livre de Jean Winter, dites-leur que la mort n'existe pas, vous allez adorer.
Mais je fais attention, je pèse mes mots, parce qu'il y a des sujets que j'aimerais aborder, mais je...
J'entends bien, parfois, que vous marchez sur des œufs là, depuis tout à l'heure, sur certains sujets. Mais oui, je comprends, oui, c'est pas toujours évident. Il y a plein de gens qui sont dans le jugement, qui sont dans...
Mais c'est pas, en fait, j'ai pas peur du jugement. C'est, je fais attention parce que tout ce côté énergétique ne me déstabilise pas, mais peut déstabiliser beaucoup de personnes qui ne les intéresse pas. Mais c'est pour ça que je trouve que la seule chose que je veux vraiment partager, c'est que le corps meurt, mais l'esprit vit. Et ça, c'est une certitude. C'est la seule chose que je suis certain.
Merci Martin pour ce beau témoignage.
Mais de rien, merci à vous de votre écoute.
Est-ce que ça va aller?
Oui, ça va aller.
Bon. Laissez-vous ce temps, ce droit d'aller, j'allais pas dire mal, de traverser ce moment de deuil, ce sont des étapes de vie. Moi j'ai confiance en vous, j'ai confiance en tout ce que votre père vous a légué, laissé comme valeur. Et je sais que votre chemin de vie va être magnifique.
C'est gentil. Et je voudrais remercier aussi les personnes, je ne sais plus, Catherine, Marc et Zoé, je ne sais plus, qui
Rose,
ont laissé des messages.
C'était Rose, Catherine et Marc qui vous ont laissé des messages, oui.
Et je les remercie sincèrement de leurs messages, et vous aussi.
Je peux vous embrasser, Martin?
Oui, tout à fait.
Bonne route à vous.
Merci, vous de même.
Au revoir.
Au revoir.
Et c'est Jeanne-Marie que j'accueille maintenant sur cette libre antenne. Bonsoir Jeanne-Marie.
Bonsoir Sabine, merci pour l'appel.
Merci à vous d'avoir patienté, c'est gentil.
Pas de souci, c'était très très émouvant d'écouter le témoignage de Martin à ce sujet, le deuil, c'est très très important. Et j'écoute toujours vos conseils pour les donner à mes copines qui perdent à mon âge leur sœur, leur frère, voilà. Mmh. Merci. Non, moi c'est plus léger. J'appelle parce que peut-être vous allez m'aider à soulever le mystère qui trône dans ma tête depuis des décennies, le pouvoir des psychiatres. Alors, je m'explique. Plusieurs fois dans mon existence, je me suis posé la question sur le pouvoir des psychiatres. J'ai fait une énorme dépression suite à une rupture sentimentale il y a longtemps, une grosse dépression, donc j'ai demandé de l'aide au CMP de mon quartier. D'accord, on m'a donné une psychologue qui ne m'a pas du tout aidée. Et j'ai raconté mon histoire, mes pleurs, tout ça pendant des jours. Et elle notait, et elle ne m'a jamais adressé la parole. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire de toutes ces notes, quoi ? Elle va les publier quelque part. Je suis devenue paranoïaque. Alors à la fin, je l'ai appelée de chez moi, j'ai même pas eu le courage de lui dire en face. Je lui ai dit, écoutez, madame, j'arrête tout parce que je vais mieux. Je n'allais pas du tout mieux, mais elle m'a fait peur à prendre des notes sans jamais me parler. Voilà. Bon. Ça, c'était une chose. Ils me demandent ce qu'ils font avec les notes. Et puis maintenant, mon frère, après, je parlerai du souci qui m'intéresse aujourd'hui, à savoir les urgences et le psychiatre à l'hôpital. Mais mon frère a fait appel à un psychiatre dans l'espoir de faire emmener ma mère en maison de retraite de force parce qu'il craignait qu'elle dilapide notre héritage, tout ça. Je trouvais ça très cruel.
Oui, il vaut peut-être mieux passer par une tutelle ou une curatelle avant ça, non ?
Ben en fait, c'était dans ce but-là qu'il avait fait appel à un psychiatre à domicile chez nous pour que le psychiatre, quelque part, fasse un rapport qui motive
l'ami.
Voilà. Mmh. Mais pour l'emmener en maison de retraite quand même. Mmh. Bon, enfin, ma mère s'est laissée mourir de désespoir, elle est partie avant de partir. Enfin, bref. Donc, je me pose toujours la question, les psychiatres. Bon, je sais bien, le psychothérapeute veut votre bien, ça c'est clair, il n'y a qu'à vous écouter tous les soirs pour le savoir. Mais le psychiatre, je pense qu'il a un pouvoir de nous nuire gravement. Alors, donc, j'en reviens à l'hôpital, comme ça vous m'aiderez avec ça. Donc à l'hôpital, je suis allée en urgence en pleine nuit parce que je suis diabétique et j'avais des étourdissements.
Vous parlez de ça, c'était il y a combien de temps, Jeanne-Marie ?
Il y a 24 heures.
Oui. Ah oui, donc c'est tout frais, c'est tout récent.
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc vous partez là-bas en urgence ?
En urgence à 2 heures du matin parce que j'avais des étourdissements et je me sentais partir dans... devenir inconsciente, enfin, je sais pas, je me suis dit, je vais peut-être mourir, j'en sais rien, donc ils m'ont emmenée à l'hôpital. Et donc, à 2h du matin, ils m'ont mise dans un box, et donc tout le monde était dans des box, donc j'ai compris que j'étais dans un service d'urgence, pas la salle d'attente habituelle, vous savez, aux urgences, on attend une grande file de personnes attendent avant d'aller dans les
box. Avant ce qu'on appelle le tri.
Oui,
non, c'est vrai, ça paraît bête, mais il y a un tri et ensuite vous êtes dans des box avec des rideaux.
Voilà, donc j'étais tout de suite dans les box avec d'autres personnes, chacun dans son box. Alors, le médecin est arrivé, une personne très sèche, mais vraiment incroyablement sèche. Moi, j'ai 73 ans, j'arrive en urgence à 2h du matin, j'ai pas besoin qu'on me brutalise psychologiquement. Elle me fait « Bon, alors donc, vous êtes là, pourquoi ?»« Parce que madame, j'ai des étourdissements, j'ai cru que j'allais perdre connaissance, voilà, je suis diabétique. »« Ah bon, alors quel est votre... » Je suis sur le même ton, je vous parle sur le même ton. « Ah bon, quel est votre traitement ?» Ben, je lui dis « Je prends, voilà, les trois cachets pour le diabète, et puis, je sais par expérience que... » Parce que je l'ai eu avant, il y a 2 ans, j'étais à l'hôpital, j'avais des étourdissements, et ils avaient découvert que j'avais un manque de potassium. Donc, j'ai pris à la maison des cachets bénins qui sont sans ordonnance à base de potassium. Elle s'est mise encore plus en colère en disant « Mais madame, excusez-moi, je ne dois pas crier au téléphone moi non plus, mais madame, vous vous rendez compte, le potassium, c'est très grave. » Je dis « Mais oui, mais je sais bien, on l'a prescrit à l'hôpital, et puis c'est sans ordonnance, et puis... » Et puis la posologie, c'est quelques milligrammes, il n'y a pas plus de potassium dans chaque gélule que dans un avocat, vous voyez, ou une banane. Enfin bref,
pourquoi ça l'a énervé comme ça ?
Je ne sais pas, une personnalité agressive, voilà. Elle me dit, il faut que je parle à votre médecin traitant, tout ça. Alors, elle s'en va, je me suis dit, bon, elle va parler à mon tobib, d'accord. Et puis, je ne l'ai jamais plus revue après ça. Je ne sais pas, elle n'est jamais plus revenue me voir. Une infirmière arrive et me fait une prise de sang, d'accord. Oh, je reprends mon souffle. Et donc, je me dis, bon, dans deux heures, c'est ça, hein, deux heures à l'hôpital, les résultats d'analyse de sang. Et deux heures après, je ne vois rien venir. Trois heures après, je ne vois personne venir. Bon, on arrivait presque à 8 heures du matin. J'étais arrivée à 2 heures du matin.
Toujours dans votre box, toute seule ?
Oui, oui, oui. Mmh. Alors, finalement, je vais au bureau des infirmières, vous savez, où elles se réunissent tous. Mmh. Je dis, mais écoutez, vous m'avez fait une prise de sang il y a 3 heures. Voilà, il est presque 9 heures, je suis diabétique. Vous ne m'avez pas offert ni à boire ni à manger. Voilà, quoi, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont mes résultats. C'est pas grave, c'est quand même patienté, ça va venir, ça va venir. Ça venait jamais. À la fin, je me suis dit, voilà, je suis venue ici dans un état de stress, de détresse, parce que j'ai failli perdre connaissance, je ne voulais pas dormir, je me suis dit, je vais mourir dans mon sommeil. Voyez. Et puis, tout ce qui m'arrive ici, c'est qu'on ne me donne ni à boire, ni à manger, combien, même pas me voir, rien du tout. Alors, à un moment donné, je suis sortie à nouveau du boxon, enfin, du box, et je suis encore allée à leur bureau, je dis, je veux partir. Je ne peux pas rester ici. Vous m'avez pris une prise de sang, je n'ai pas de résultat. On m'a dit qu'on allait parler à mon médecin. On ne me dit rien, on me laisse comme ça. Je veux rentrer chez moi. Et je suis devenue quand même agressive parce que quand on est stressé,
oui,
on n'est pas forcément. Hein. Et alors, elle me dit, mais non, restez là. Je ne peux pas rester là, je vais aller dans mon lit, dans mes coussins, dans mes draps, dans ma couette. Je ne peux pas rester ici. Enfin bref. Donc, alors, je suis revenue dans mon box. C'est seulement l'après-midi, j'ai menacé de repartir encore. Alors, je retourne à leur bureau, ils me disent, ah ben écoutez, il faut voir le psychiatre. J'ai dit, quoi ? Le psychiatre ?
Oui.
Comment ça encore ? Le psychiatre ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, vous le verrez. Mais attends, je veux savoir pourquoi je ne vais pas voir un psychiatre. Je ne suis pas venue pour voir un psychiatre. Je suis venue pour que vous me secouiez parce que j'allais perdre connaissance. Elle me dit, ben écoutez, vous ne pouvez pas partir. Alors, elle me dit, alors vous signez une décharge. Alors, sur la décharge, il y avait marqué risque d'arrêt cardiaque. Je dis, quoi ? Arrêt cardiaque ? Vous ne m'avez rien dit toute la journée ? C'est maintenant que vous... Bon, enfin bref. Bon, tout ça pour dire, on est maltraité aux urgences. C'est pour ça que j'appelle. S'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans...
Oh ben malheureusement, je crois que oui. Il y a quelques millions de témoignages. Alors c'est un peu compliqué cette histoire d'urgence. Parce que non, c'est pas ça. C'est qu'il y a deux choses. D'un côté, c'est vrai, je suis bien d'accord avec vous, il y a des médecins qui sont odieux. Il y a des infirmières qui sont désagréables, qui ne se rendent pas compte. D'un autre côté, il faut aussi se rendre compte qu'ils travaillent comme des dingues, qu'ils ont des journées de fous.
C'est vrai.
Qu'ils sont épuisés. Ça n'est pas une excuse, mais ils ne sont pas toujours formés sur la relation humaine. Certains ne savent pas parler aux patients, ne se rendent pas compte de la souffrance psychologique dans laquelle on est, de l'inconfort physique dans lequel on est quand on est tout seul pendant des heures dans un couloir.
Total.
Même temps, le problème, c'est que le système est tellement mal fichu qu'ils sont ils sont des journées absolument énormes, ils sont épuisés eux-mêmes.
Merci de le redire quand même. Merci beaucoup, Sabine. Alors, je reviens à mon problème de psychiatre, parce que c'est ça.
Oui, c'est ça, ça m'intrigue aussi, cette histoire-là. Pourquoi c'est... Parce que vous avez osé vous rebeller, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça ?
Rien, on ne me l'a même pas expliqué. Donc, il était presque 5 heures du soir. Alors, je dois dire que ça faisait 32 heures que je n'avais pas dormi. Hein.
C'est ce que j'allais dire, n'importe qui deviendrait un peu fou hein, sans dormir.
Oh, c'est gentil, j'ai même pas eu la présence d'esprit de leur dire ça. Donc, à 5 heures du soir, ça faisait 32 heures que j'avais pas dormi, je me recouche aidez-moi là où on se couche, comment ça s'appelle, un brancard.
Un brancard, à roulette, là,
Et puis, je me mets en boucle dans ma doudoune et j'éclate en sanglots. Alors, il y en a une qui passe qui dit « Qu'est-ce que vous avez ?» Qu'est-ce que je suis épuisée nerveusement, madame.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'elle me veut, la psy ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Enfin, elle m'a dit « Je ne sais pas, vous allez voir. » Enfin, j'arrive dans son bureau. Elle ne m'a même pas demandé comment j'allais, tout ça. J'ai écouté, madame, j'en peux plus. Enfin, j'ai annoncé la couleur parce que j'ai peur qu'elle me traite de folle, vous voyez. J'ai trop peur des psychiatres. Alors, j'ai écouté, je suis dans tous mes états parce que je n'ai pas dormi depuis 8 heures, il y a, je sais pas, 32 heures, et j'en peux plus, voilà. elle me dit, bah, écoutez, moi, je ne suis pas pour vous donner des cachets. En plus, elle manquerait plus que ça qu'elle me donne des cachets. Des cachets de quoi? Je sais pas.
Oui, de potassium.
Ouais. Alors, vous savez, quand je me sens en danger, je lui dis, je vous aime. Alors, je la haïssais complètement. Et je vous aime, parce que je ne sais pas quoi faire, parce que j'ai été une enfant battue. Et voilà, bon, mes parents, mon père me battait, ma mère me criait dessus. En fait, du coup, je suis restée assez psychofragile, enfin, comment on dit?
Vous avez peur, en fait, en plus, là.
Oui, oui.
L'épuisement, la peur, ça fait beaucoup en même temps à gérer.
Voilà. Mais elle n'a même pas cherché à me réconforter. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut détecter un problème psychique chez moi? Je ne suis pas venue pour ça. Non, elle voulait juste connaître mes symptômes, qu'est-ce que j'avais en fait. Non, en fait, ça risque d'être un AVC, les symptômes que j'avais, mais elle ne m'a même pas parlé sur le plan psychologique. Donc ça sert à quoi un psychiatre quand elle ne vous parle même pas de votre vécu, de votre ressenti, juste de vos symptômes
Là, je vous avoue qu'envoyer quelqu'un en urgence chez le psychiatre, je n'ai jamais entendu ça. Je trouve ça extrêmement curieux quand même.
Non, c'est l'inverse, Sabine. C'est pas d'envoyer en urgence. Je suis cassée. Non, mais j'étais aux urgences.
Non, ce que je veux dire, c'est j'ai bien compris. C'est arriver aux urgences.
Oui.
Et attendre aux urgences qu'on vous envoie chez le psychiatre. Je trouve ça un peu curieux aussi.
Ah oui, parce que j'avais été désagréable. Quatre ou cinq fois, j'ai dit je m'en vais. J'étais avec.
C'est ça. C'est ce que je vous disais. Je pense que peut-être comme vous avez un petit peu, comme on dit vulgairement, pété les plombs à un moment donné, ils se sont dit oh là là, elle est peut-être bizarre. On va l'envoyer chez le psy. C'est peut-être ça qui s'est passé, tout simplement. Peut-être que ne sachant pas comment vous gérer dans un moment de panique, de fatigue, ou choses comme
bien.
Ils se sont dit, finalement...
Ouais. Alors, du coup, elle m'a avoué, elle m'a dit, vous savez, on vous a gardé toute la journée parce que vous étiez en observation. Oui, parce que j'arrivais avec des étourdissements, risque de
oui,
coma.
Oui, ce qui peut s'entendre, on peut comprendre ça. Mais il aurait peut-être fallu vous le dire, c'est ce que j'allais vous dire aussi.
Je me serais endormie calmement sur mon brancard, je n'aurais pas attendu toute la journée en attendant des résultats qui n'arrivaient jamais. Mmh. Alors, je trouve ça cruel, oui.
Malheureusement, ce genre d'histoire, on l'entend à longueur de journée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais. Une partie du personnel de santé n'est pas formée à ça. S'ils se rendaient compte à quel point à simplement rassurer les gens, ça serait énorme.
Mais...
Un mot, un geste.
Oui, un mot, un sourire même. Oui. Alors, vite fait, le pouvoir des psychiatres. À quoi ça sert un psychiatre à l'hôpital? Il peut vous enfermer, il peut faire un dossier sur vous. Quel est son pouvoir? C'est quelque chose que...
Vous enfermer, ça paraît un petit peu brutal, ça ne va pas si vite que ça. Le pouvoir est un bien gros mot. En revanche, ils peuvent avoir effectivement... Ils ont un pouvoir de consultation, d'avis sur quelqu'un.
Oui. Donc on n'a pas intérêt à péter les plombs en phase 2, alors, pour faire court.
C'est un petit peu vaste comme question. Je pense qu'un psychiatre, c'est faire la différence entre quelqu'un qui craque parce qu'elle n'a pas dormi, parce qu'elle a peur, et quelqu'un qui a une pathologie psychiatrique.
C'est
leur métier en revanche. Ils sont quand même bien placés pour savoir si c'est un problème ponctuel, quelqu'un qui craque, parce qu'il y a de quoi craquer quand on vit ce que vous avez vécu, ou quelqu'un qui peut, de manière sous-jacente. Avoir quelque chose de plus profond et qui peut déceler à ce moment-là une pathologie comme une paranoïa, une schizophrénie, quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment leur boulot. Après, je pense que dans un système d'urgence comme ça, ils ne sont pas là non plus pour passer des heures avec chaque personne. Je crois qu'ils sont juste peut-être s'assurer que vous êtes OK de ce côté-là et que si vous avez une réaction, que vous avez surréagi à un moment donné, c'était juste...
Surréagir, c'est le mot, oui.
Ponctuel, en fait.
Ponctuel, vous tombez tous les mots que je n'ai pas entendus chez la psychiatre. Oui,
je crois que du début jusqu'à la fin, vous n'avez entendu aucun mot rassurant, c'est ça qui est inquiétant.
J'adore.
Non, mais c'est vrai.
Oui, mais sinon, quel est le vrai pouvoir d'un psychiatre? Si un jour, que Dieu me préserve... Si un jour je deviens extrêmement bizarroïde, il a le pouvoir, avec sa blouse blanche et son titre de psychiatre, de m'envoyer en maison de retraite comme mon frère a voulu le faire pour ma mère, disons par exemple.
Ah, c'est ça qui vous fait peur en fait, en toile de fond. Non, je crois que ce n'est pas si simple que ça, heureusement. Il y a quand même des examens qui doivent être passés, il y a des choses qui doivent se passer de manière légale. C'est pas simplement un psychiatre un jour qui va dire « Oh là là, elle est bizarre, elle, on l'enferme. » Rassurez-vous, d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe.
Bon. Quand même, il est médecin, s'il décide qu'il peut le faire, quand même, je sais pas.
Qu'est-ce que vous craignez au final?
J'ai vu le film Vol au-dessus d'un nid de coucou dans ma jeunesse. Ça m'a traumatisé à vie, vous voyez. Le pouvoir des psychiatres.
Oui, c'était un film, Jeanne-Marie. Mmh. C'était juste un film.
Oui, mais les films sont souvent faits à base de faits vécus.
Non, ce que j'entends dans ce que vous me racontez, c'est que vous êtes un peu traumatisée aussi parce que votre frère a fait.
C'est vrai.
Ça vous a fait peur, ça.
Ouais. Mais quand même, je n'ai pas la réponse. Le psychiatre peut quand même le faire puisqu'il l'a fait pour ma mère. Enfin, il n'a pas pu l'enfermer puisqu'elle est décédée avant. Mais
il le fait pas tout seul. Dans ces cas-là, il y a d'autres personnes qui interviennent.
Ah,
c'est pas juste c'est lui qui peut décider ça. Il y a des examens qui doivent être passés, il y a des choses qui doivent être prouvées. Ben, bien sûr.
Bon. C'est pas dormir tranquille. Oui.
C'est pas juste lui qui va déclarer. Elle est folle, on l'enferme. C'est pas si simple, c'est pas si rapide que ça.
J'attendais que ces paroles-là, en fait.
Soyez rassurés. À votre place, je répétais les plombs de la même manière. Passer des heures sans dormir dans un coup.
Franchement.
Vous voulez que je vous fasse une confidence et on va se séparer là-dessus?
Oui,
un jour, je me suis échappée des urgences par la fenêtre, comme ça, parce que j'ai craqué. J'ai passé des heures et des heures et des heures. À côté de moi, il y a un monsieur qui a fait une crise cardiaque. Personne n'est venu s'en occuper. Ils m'ont oublié, ils m'ont balancé d'un brancard à l'autre. J'en ai eu tellement marre, j'ai arraché les électrodes qu'on m'avait attachées pour faire un électrocardiogramme.
Je vous jure que c'est vrai. Vous êtes pire que moi, pardonnez-moi.
Ah mais c'est-à-dire que moi, j'ai ce qu'on appelle la valeur liberté. Et si on ne la respecte pas, je m'en fous. Je n'ai même rien signé du tout. Je suis partie par la fenêtre, j'ai appelé un taxi et je suis partie dans un autre hôpital.
Formidable, vous m'avez donné un espoir. Merci, je n'aurai plus jamais, grâce à vous, et j'en finis là, je n'aurai plus jamais peur des psychiatres, grâce à vous.
La réponse, Jeanne-Marie, c'est que les gens, quels qu'ils soient, même les psychiatres, n'ont que l'importance que vous voulez bien leur donner.
Ah, ça c'est bien, je vais retenir ça, merci. Ok. Je suis tranquille. Je sais maintenant, grâce à vous, qu'un psychiatre ne peut pas m'interner ou me mettre en maison de retraite parce que lui seul l'aurait décidé.
D'accord. C'est pas si rapide et si expéditif que ça. Heureusement, il y a une justice, il y a des gens qui interviennent, il y a des examens. On ne peut pas simplement comme ça décider sur un simple rendez-vous aux urgences de vous interner. Non. Et puis une fois de plus, vous n'êtes pas la seule. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans ce que vous avez vécu. Il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir fou aux urgences par moment. C'est pas à charge contre eux, on en a parlé tout à l'heure, ils font ce qu'ils peuvent.
Oui, bien sûr.
Mais c'est tellement difficile pour nous aussi quand on y arrive, c'est tellement compliqué. Et quelquefois, un simple mot,
oui,
vous aurez évité tout ça.
Oui, c'est tout, un rictus genre sourire, c'est tout. Merci beaucoup Sabine. J'ai aimé votre témoignage, ça va me fortifier. Merci Sabine, bonsoir.
Eh bien, je suis ravie de vous avoir aidée, je vous embrasse Jeanne-Marie.
Super, au revoir Sabine, je vous embrasse, bye.
Et notre émission se termine en douceur. Le temps passe vite quand on est ensemble, vous avez remarqué, il va bientôt être 1h du matin. L'heure de nous quitter pour mieux nous retrouver demain. Merci à Jeanne-Marie, merci à Josiane, à Martin bien sûr. Merci à tous ceux qui sont intervenus ce soir, à tous ceux qui ont envoyé des SMS pour participer à cette émission à leur manière. Il y avait Marc, il y avait Martine, il y avait Rose. Merci à vous tous qui faites chaque jour avec moi, avec Sophie aussi la semaine, cette émission. Je vous retrouve demain soir avec le même plaisir à partir de 23h. Et je vous quitte sur cette citation de Deepak Chopra que je trouve particulièrement de circonstance en ce week-end. J'avais commencé à vous en parler hier, mais on a été coupé. Je n'ai même pas eu le temps de vous dire qu'elle venait de Deepak Chopra. Au centre du mouvement et du chaos, restez calme intérieurement. Je vous souhaite une très belle nuit et je vous retrouve demain soir à partir de 23h. Et vous le savez, d'ici là, nous restons en contact sur ma page Facebook Sabine Marin. Et n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment continuer à appeler le 3921, laisser des messages sur le répondeur. Et on vous rappellera demain soir. Bonne nuit.